Chloé Carpentier, vous êtes la chef de la section de recherche sur les drogues à l'ONUDC, donc l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et donc, un nouveau rapport vient de sortir sur la cocaïne. Donc, on a vu que pendant la pandémie, le marché a été un peu ralenti pour certaines drogues, mais il semble que pour la cocaïne, ça n'a pas été le cas. Donc, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé.
Et je vous remercie. Donc, nous venons de sortir ce rapport. C'est le premier rapport de ce type qui est dédié seulement à la cocaïne, au trafic et aussi à l'usage de cocaïne dans le monde et en région aussi. Ce rapport a été financé par l'Union européenne. Donc c'est quelque chose aussi que je tiens à souligner. Je remercie l'Union européenne pour leur soutien financier. Donc oui, en effet, pendant la pandémie, en fait, il y a eu une petite halte, mais relativement rapide, qui n'a pas duré très longtemps, aussi bien au niveau de l'arrivée des produits sur les marchés, et puis aussi au niveau de l'usage, hein, parce que beaucoup d'usages de cocaïne sont des usages récréatifs dans des lieux conviviaux, des lieux qui finalement étaient fermés durant la pandémie. Donc, il y a eu une petite halte. Ceci dit, ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur les tendances qu'on voit au niveau global ou régional par rapport aussi bien à l'offre qu'à la demande de cocaïne. Pour ce qui est de l'offre, on est maintenant dans une dynamique de progression qui est vraiment très rapide. Les derniers chiffres qu'on a, c'est par rapport à la culture de coca, donc qui vient de trois pays, hein, de la Colombie, du Pérou et de la Bolivie. Pour 2021, on a une augmentation spectaculaire, donc un nouveau record pour 2021, une augmentation de 35% par rapport à l'année d'avant. Donc, c'est énorme. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les saisies de cocaïne, on a des énormes saisies, même pendant la pandémie, qui ont été effectuées, par exemple, en Europe. Hein, on a plusieurs tonnes métriques saisies en Europe. Et pour 2021, donc le dernier chiffre qui est encore préliminaire, on a une augmentation tellement record qu'il semble que ça serait le plus haut chiffre à jamais atteint pour les saisies de cocaïne. Donc, pour vous dire que vraiment, c'est l'offre, elle est extrêmement haute. Alors, ce qui est positif, c'est que si on regarde sur le long terme et qu'on compare à des niveaux records de production de cocaïne dans les années 2000, en 2006, c'était le record précédent, je dirais. En fait, la progression par rapport à la cocaïne qui est disponible sur le marché, elle est pas si haute que ça par rapport à la production. Et pourquoi? Parce que les saisies ont augmenté tellement qu'elles ont permis finalement de contenir d'une certaine façon l'offre sur le marché. Bon, ça a quand même augmenté, mais pas autant qu'on aurait pu l'imaginer. Donc, je crois que ça, c'est un bon point aussi pour tout ce qui est action répressive et les saisies de cocaïne. Au niveau de l'usage, alors, il y a une tendance qui est, je dirais, de la dernière décennie, hein, d'augmentation du nombre d'usagers de cocaïne dans le monde. Bien sûr, il y a une augmentation de la population en général, mais l'augmentation, elle est un peu plus rapide que l'augmentation de la population. Donc, il y a aussi une augmentation de l'usage. Maintenant, ces tendances, elles se déclinent de façon différente selon quel marché on analyse. Les marchés traditionnels de la cocaïne sont les marchés d'Amérique, de l'Amérique du Sud, surtout Brésil, les États-Unis, l'Amérique du Nord. C'est le marché de l'Europe de l'Ouest et c'est aussi l'Océanie, principalement l'Australie. Donc ça, ce sont les marchés traditionnels. Et en dehors de ces marchés, il y a très, très peu d'usage de cocaïne pour le moment. Et donc, si on regarde ces marchés, en fait, les tendances ne sont pas les mêmes, elles sont assez différentes. Il semble qu'au Brésil, il y a eu une augmentation de la disponibilité de la cocaïne ou d'autres produits à base de cocaïne, par exemple des produits qui sont plus, par exemple du crack, à partir de 2016. C'est après la grosse augmentation de la culture et de la production en Colombie, mais aussi au Pérou et en Bolivie. Donc, il y a eu une sorte de spillover, je dirais, avec le Brésil. En Europe et en Australie, on voit les mêmes tendances à partir de 2016-2017. Une grosse augmentation, une grosse expansion du marché. En Europe, avec des usages qui deviennent plus intensifs. Et on a des indicateurs qui nous montrent que l'usage de crack est vraiment en augmentation, avec beaucoup plus de personnes qui utilisent le crack en traitement pour l'usage de cocaïne. Donc ça, c'est quand même assez préoccupant. Et en Australie aussi, alors l'Australie a toujours eu un usage de cocaïne très élevé par rapport aux autres pays dans le monde, le plus élevé dans le monde. Mais en fait, quand on regardait la consommation, c'est-à-dire les quantités qui sont utilisées, on voyait que l'Australie restait toujours à un niveau extrêmement bas. Donc, c'était pas très préoccupant. Mais depuis 2016-2017, on voit une augmentation de la consommation en termes de quantité. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des usages qui sont peut-être plus problématiques ils sont en train de développer. Et ce qui s'inscrit en contraste de ces tendances à l'expansion, à l'augmentation, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, depuis 2017, on voit une contraction, en fait, du marché. Donc, en fait, on a deux choses qui se passent. On a le premier marché mondial le plus large, c'est celui des États-Unis. Le deuxième, c'est celui de l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale, surtout de l'Ouest. Et donc, le premier est en train de se contracter, alors que le deuxième est en pleine expansion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une convergence entre les deux marchés. Ça, c'est vraiment un point intéressant. Donc, on voit que la pureté et les prix en Europe de l'Ouest, depuis quelques années, en fait, ont convergé avec ceux des États-Unis. On sait que depuis 2012, l'offre en Europe de l'Ouest est extrêmement haute de cocaïne, a augmenté progressivement aussi, qu'on a des groupes criminels européens qui maintenant sont présents dans les pays producteurs, à la source donc, et donc qui ont éliminé les intermédiaires, et ça a donné lieu à ce que le produit sur le marché, pour le consommateur final, devienne plus disponible, il y en a plus, et aussi plus accessible, et moins cher, et de plus haute qualité. Donc, en fait, les trafiquants ont réussi à éliminer le problème de la traversée de l'Atlantique. Donc, c'était un problème avant, donc la cocaïne était plus chère en Europe de l'Ouest, ce n'est plus le cas maintenant. Donc, voilà, au niveau des tendances sur les usages.
Et en plus, je pense qu'il y a des nouvelles plaques tournantes, n'est-ce pas, sur le continent, surtout africain et en Asie. Donc, ce n'est plus concentré sur le continent américain et certaines régions d'Europe, mais aussi ça s'est étendu à l'Afrique et à l'Asie. Donc, quels sont justement les pays qui sont les plaques tournantes et pourquoi ce changement?
Je crois qu'il y a tout simplement une diversification des routes, ça veut dire des points de sortie du continent américain, par exemple, vers d'autres marchés comme le marché européen, et aussi des zones de transit. Alors, l'Afrique, elle émerge depuis 2019 comme une très grosse zone de transit, surtout l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, pour le trafic de cocaïne qui vient d'Amérique du Sud, aussi et en partie qui vient du Brésil, je dirais. Donc, le Brésil, c'est une des routes traditionnelles aussi de départ de l'Amérique du Sud vers le marché européen. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive en Afrique. En Afrique, dans les années 2005-2010, il y avait un accroissement du trafic de cocaïne, puis ensuite c'est retombé. Et maintenant, ça revient. Alors, c'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, c'est aussi l'Afrique du Nord, hein, parce qu'il y a tout un tas de trafic par la mer autour de l'Afrique. On a des énormes saisies qui ont été faites au Maroc, par exemple, ou dans d'autres pays d'Afrique du Nord. Et on a aussi une croissance du trafic des flux avec le Golfe de Guinée aussi, qui apparaît très important dans les données. Mais ce qui est important de souligner, c'est que pour ce qui est de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, c'est pas seulement les pays côtiers qui ont une façade maritime. On a aussi des grosses saisies et du trafic dans la zone du Sahel, par exemple. La destination de ces trafics, elle est pas très claire, mais c'est un trafic qui va vers le nord et plus probablement en direction de l'Europe de l'Ouest ou en direction du Moyen-Orient. Alors, les dangers de cet accroissement du trafic et de l'utilisation de l'Afrique comme une zone de transit, parce que c'est une zone de transit plutôt que il y a pas de gros marché pour l'instant en Afrique. Donc, les dangers, c'est le spillover. C'est-à-dire que quand les cargaisons arrivent en Afrique et elles sont repackaged pour être ensuite réacheminées avec d'autres modes, là, il y a des paiements qui sont faits en nature, qui sont faits en cocaïne, qui sont pas faits en argent. Donc, du coup, il y a une possibilité pour que le marché se développe, le marché local, parce que cette cocaïne, elle va trouver des consommateurs sur le marché local. Mais c'est pas seulement pour l'Afrique, hein, c'est aussi pour d'autres régions. Par exemple, une autre région qui est en train de croître au niveau de son rôle de transit, c'est l'Europe du Sud-Est. Donc, l'Europe du Sud-Est, on voit qu'il y a aussi beaucoup de cocaïne qui arrive là, qui arrive par la mer, directement d'Amérique latine, mais aussi qui arrive par air à travers l'Afrique, ayant transité par l'Afrique, et à destination de l'Europe de l'Ouest, mais pas toujours. Il y a aussi des marchés locaux qui se développent, on a des signes de ça, et puis il y a aussi de la cocaïne qui va vers, par exemple, l'Europe de l'Est, hein, par exemple, la Fédération de Russie. Alors maintenant, ce qu'on voit, c'est une propension à ce que le trafic se déplace vers l'Est, donc vers l'Afrique et vers l'Asie. En Asie aussi, on a vu des très grosses saisies. Alors souvent, c'était des saisies en transit. Hein. Par exemple, en Malaisie, je crois que c'était 12 tonnes de cocaïne qui ont été saisies. Il me semble que c'était en 2019. C'est énorme. À Hong Kong, il y a une grosse augmentation aussi des saisies de cocaïne. Donc même si c'est en transit, il y a quand même toujours la possibilité que les marchés locaux se développent. Donc c'est une préoccupation
En plus, je pense que justement, vous en parliez un petit peu, c'est que les groupes criminels de petite taille ou de moyenne taille jouent un rôle de plus en plus important dans le trafic. Donc, avez-vous justement des exemples?
Alors, on peut partir de la Colombie. En fait, en Colombie, il y a eu une fragmentation du paysage criminel, je dirais, au fil des années, mais surtout après les accords de paix en 2016. Et ça a donné lieu à une fragmentation de multiples groupes. Donc, on a énormément de groupes qui sont maintenant sur place. Alors, il y a des groupes qui sont là depuis longtemps, il y en a d'autres qui sont nouveaux. Et puis, il y a des groupes qui sont locaux, colombiens, mais il y a aussi des groupes qui sont étrangers. On a par exemple des groupes mexicains qui auparavant ne s'occupaient que du trafic de cocaïne depuis la Colombie jusqu'au marché lucratif des États-Unis et qui maintenant sont présents à la source et financent aussi des opérations de culture et de transformation de la coca en cocaïne. On a aussi des groupes européens qui sont maintenant présents à la source. C'était le cas avant, mais maintenant on a plus de groupes. Il y a des groupes des Balkans, par exemple, qui sont présents et c'était pas le cas avant. Donc il y a cette fragmentation du paysage criminel qui fait qu'il y a plus de compétition à la source et on est dans un marché maintenant qui est free for all, je dirais. Donc en fait, les cultivateurs ont plus de raisons finalement d'accroître la culture et les producteurs d'accroître la manufacture de cocaïne parce que il y a beaucoup de groupes qui sont là et qui finalement vont l'acheter. Donc ça c'est ce qui se passe en Colombie et pas seulement en Colombie. On voit aussi une expansion d'un groupe criminel du Brésil, le Primeiro Comando da Capital. C'est un groupe qui vient de São Paulo initialement et qui s'est développé au niveau du système des prisons. Et c'est comme ça qu'ils accroissent leur pouvoir dans d'autres pays, donc par le système carcéral et leur emprise sur le système carcéral. Donc le Primeiro Comando da Capital est maintenant présent dans un grand nombre de pays en Amérique du Sud. C'était pas le cas il y a quelques années. Et on a vu aussi, il n'y a pas longtemps, la présence de certains de ses membres en Afrique, au Mozambique, par exemple. Le numéro 2 de ce groupe a été arrêté, ensuite a été extradé vers le Brésil et vient d'être condamné à un grand nombre d'années de prison. Et aussi en Europe. Et puis, il y a aussi des groupes, par exemple en Europe, je crois le grand changement dans les dernières années, ça a été les groupes des Balkans et différents groupes des Balkans qui maintenant sont vraiment des acteurs majeurs au niveau du trafic à haute échelle hein, de cocaïne, donc l'importation vers l'Europe de l'Ouest, hein, vers les ports de Antwerp, de Rotterdam, aussi Hambourg, et puis aussi la distribution aussi en Europe. Maintenant, au niveau des groupes, alors, il y a une multitude de groupes, et ces groupes, ils s'associent en réseau, je dirais, mais des réseaux qui sont relativement fluides. Donc, on est loin des structures assez monolithiques qui existaient il y a peut-être une dizaine d'années. Donc, c'est des arrangements relativement fluides au gré des besoins et puis des alliances qui sont contractées, mais qui sont temporaires, je dirais. Et un point important aussi, c'est que pour la plupart de ces groupes sont orientés vers le profit. Ils sont beaucoup moins en compétition que par le passé pour ce qui est du contrôle territorial. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a changé, en tout cas en Amérique latine. Et aussi, ce que je voulais mentionner, c'est que avec ces changements au niveau des groupes criminels, il y a aussi une prolifération des groupes qui sont spécialisés et qui finalement vendent leurs services tout au long de la chaîne de trafic de la cocaïne, hein, depuis la culture et la production jusqu'à, par exemple, le blanchiment d'argent. Alors, la plupart de leurs services sont surtout sur le transport, hein, mais il y a aussi d'autres services et qui se font payer. Ils peuvent se faire payer en nature aussi, mais ils ne sont pas propriétaires du cargo. Ils sont pas propriétaires de la cocaïne dont ils s'occupent. Donc ça aussi, c'est un changement et c'est des service providers.
Donc justement, on parlait des transports et je pense que justement, les trafiquants utilisent des nouvelles technologies pour essayer d'éviter que leur cargaison soit prise parce que je pense qu'ils camouflent ces marchandises et je pense que c'est un problème aussi, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'ils font exactement?
Alors, le paysage en termes de modalités de trafic a vraiment évolué ces dernières années. Il est extrêmement varié. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'utilisation de l'aviation générale, c'est-à-dire donc pas l'aviation commerciale, mais l'aviation générale. Donc, ce qu'on appelle des narco planes, donc des avions ou des avionnettes qui sont privées et qui sont aménagées. Donc, on enlève des sièges, on enlève tout ce qu'on peut pour pouvoir transporter un maximum de quantité de cocaïne. On voit ça surtout en Amérique du Sud et c'est relativement nouveau, hein. Il y a une nouvelle route qui s'est développée dans les dernières 5 dernières années, qui est la route, on appelle, du cône du Sud, en fait. C'est un lien qui est fait entre ces avionnettes qui transportent de la cocaïne depuis le Pérou jusqu'à la Bolivie et jusqu'à l'Équateur. Et là, on a une rivière qui s'appelle le Paraná-Paraguay. Et le long de cette rivière, donc la drogue est transportée, elle arrive à l'estuaire de la rivière Plata, en Argentine, et là, elle part pour l'Atlantique et pour l'Afrique ou pour l'Europe. Donc, on a cette modalité d'aviation générale qui se développe énormément, pas seulement en Amérique latine, hein. Aussi, on a vu ça en Afrique et aussi en Europe, je dirais. Donc, ça, c'est un moyen clandestin, parce que ça veut dire aussi qu'il faut des pistes clandestines d'atterrissage. Donc, il y a beaucoup de pistes qui sont pas des aéroports, qui sont des pistes d'importance secondaire, je dirais. Et puis après, il y a les clandestines. Donc, voilà, ils utilisent ça. Alors, il y a des drones aussi, qui sont utilisés. Aussi bien des drones, ce qui est intéressant, on a des drones aériens, ce à quoi on pense peut-être automatiquement, mais on a aussi des drones sous-marins, en fait. Donc, ça aussi, ça existe. Il y a des sous-marins ou semi-sous-marins qui sont développés, qui sont produits, en fait, en Amérique latine, rien que pour le transport de la cocaïne, et ensuite qui vont pour le transport donc sur le continent, principalement. Hein. C'est rare qu'il y ait eu intercontinental. Et ensuite, pour tout ce qui est camouflage dont vous parliez, bon, il y a tout un tas de techniques, mais ce qu'on voit, c'est que la drogue est de plus en plus camouflée de manière chimique. C'est-à-dire qu'elle est ou bien imprégnée dans des matières solides, des plastiques ou autres, et donc il est très difficile de l'identifier par les services de répression. Et en fait, à l'arrivée dans les pays de consommation, donc à destination, à l'arrivée, on a besoin d'un laboratoire pour extraire cette cocaïne dans laquelle elle a été intégrée. Donc, ça peut être des plastiques, ça peut être du tissu et ça peut être d'autres matériels aussi. Mais donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'à l'arrivée, il faut quand même une organisation qui est relativement lourde avec l'extraction, on appelle ça l'extraction secondaire. C'est-à-dire qu'on va extraire avec des produits chimiques la cocaïne qui se trouve dans ces matériels.
Mais tout de même, je pense que les interceptions de cargaison de cocaïne, vous en avez parlé, ont également fortement augmenté. Donc, est-ce que vous avez justement quelques chiffres?
On a des chiffres préliminaires pour 2021 et sont à un niveau record. Et là, il semble que ce soit vraiment un niveau record, c'est-à-dire c'est pas seulement dans les dernières années. Il faudrait qu'on ait la confirmation une fois qu'on aura les chiffres. Mais en tout cas, à minima, il semble que les interceptions, c'est à peu près 2000 tonnes interceptées dans l'année 2021, à minima. Mais on parle de cocaïne à des niveaux de pureté qui sont variables. Pureté. Ça, c'est quelque chose de vraiment important à mentionner. Je dis ça parce que les derniers chiffres qu'on a par rapport à la production, qui date de 2020, parce que 2021, on n'a pas encore les estimations, elle est aussi de 2000 tonnes. Mais c'est de la cocaïne pure. Donc, il ne s'agit pas de la même chose. Donc, au niveau des saisies, c'est à peu près 2000 tonnes à des niveaux variables. Alors, pour ce qui est les saisies au niveau d'importation de gros, on est sur des puretés qui sont relativement hautes, je dirais entre 60 et 80%. Pour le marché de détail, les puretés peuvent baisser, mais il faut savoir que la pureté a aussi augmenté sur les marchés qui sont en expansion. Donc ça aussi, c'est un problème au niveau de la santé des personnes qui l'utilisent et des dommages.
Peut-être en dernière question, quelle est justement la mise en garde de l'ONUDC et quelles sont les recommandations de l'ONUDC?
Je crois que de ce rapport, il y a deux éléments qu'il faut peut-être mettre en exergue. Alors, le premier, c'est qu'il y a vraiment une augmentation historique de l'offre de cocaïne au niveau global. Et donc, on doit tous rester en alerte. La cocaïne est partout maintenant. Et on a des saisies qui sont très grosses et dans les endroits les plus inattendus. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le potentiel pour que le marché en dehors des pays qui sont des marchés traditionnels se développe est énorme. On a cette offre qui est en augmentation, on a un trafic vers l'Est et dans les pays de transit qui est aussi en augmentation. Donc, je crois que le potentiel, il est énorme et c'est une réalité dangereuse. Donc, je crois qu'il faut vraiment rester en alerte par rapport à ça. Il faut savoir que c'est un problème qui est transnational maintenant. Donc, je crois qu'il faut que les acteurs à tous les différents niveaux, au niveau national, mais aussi supranational, régional et international, prennent bien conscience, digèrent les points que ce rapport soulève et puis voient comment adresser cette question qui est transnationale avec des réponses qui soient aussi transnationales.
Chloé Carpentier, merci beaucoup pour cette interview.
Merci beaucoup.